Donc comme ce matin, certains ont été participants pour la louange, pour la préparation du Saint-Repas, et vous-même, qui avez participé par vos chants, je vous demande d'être encore participants, d'ouvrir votre esprit et d'imaginer. Le message de ce matin, certains l'ont déjà entendu, et parfois, il est vrai, dans la parole, on lit des choses d'une certaine manière ou d'une autre, et on les relit encore une autre fois en les comprenant bien différemment. Donc le message s'intitule « Trop longtemps », message qui avait été apporté chez Patrick récemment. Donc dans le livre de Jean, dans l'Évangile, nous est relaté un fait d'un homme malade depuis 38 ans. Donc je vais résumer un peu le chapitre 5 de l'Évangile de Jean. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as retrouvé la santé, tu ne pêches plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. En vérité, je vous le dis, l'homme vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Donc Moïse symbolise la loi et l'obligation. Le légalisme, c'est une tentative d'accomplir la justice de Dieu par l'observance de règles, de commandements et de lois. Mais dans Romains, au chapitre 3, verset 20, il est écrit « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La loi nous rend compte que nous sommes pécheurs, mais elle ne donne pas le moyen d'être délivré du péché. Uniquement Jésus, qui symbolise la grâce et la liberté, peut nous donner le moyen d'être libéré du péché. Cet homme se tenait devant un bassin. Il était malade depuis 38 années. 38 longues années. Imaginez être malade pendant 38 ans. Aspirer à être guéri. Alors que d'autres prenaient sa place pour être guéri, lui devait, en chemin de retour, retourner à l'emplacement où il était, alors qu'il était encore avec sa maladie, et attendre une nouvelle fois que les eaux du bassin puissent être remuées pour être guéries. Et Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse ?» Il veut retrouver la santé. 38 années de maladie. Cette femme aussi, qui a touché le vêtement de Jésus, qui était atteinte d'une perte de sang, 12 années, 12 ans de maladie, 12 ans de finances perdues dans les mains des médecins, 12 ans à espérer une guérison qui ne venait pas. 38 années, 12 ans. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, qui a eu des frères, qui aimait ses frères, qui aimait son père, qui aimait sa mère. Il a été vendu par ses frères, trahi par ses frères. Il est resté loin de ses frères 17 années. 17 années à être loin de sa famille, de son père, de sa mère qui n'a pas pu mourir, de ses frères qui ont grandi sans lui. 17 ans, 38 ans, 12 ans, 17 ans. Et Moïse. Moïse, on pourrait se rappeler de lui en tant que meurtrier ou assassin. Pour libérer son peuple, il a tué un Égyptien. Et après, il est parti dans le désert. 40 ans, 12 ans, 17 ans, 38 ans, 40 ans. Le message de ce matin s'intitule « Trop longtemps ». Dans notre vie à nous, des addictions, des péchés non avoués, des pardons non effacés. Depuis combien de temps ? Allons-nous attendre encore ? Tout comme ces personnages qui ont attendu la délivrance, qui ont espéré la délivrance. Jésus symbolise la grâce, la liberté, mais aussi la délivrance. Nombreuses sont les interrogations qui viennent à notre esprit lorsque la maladie ou le péché sont liés dans la parole. Cela fait 12 ans, cela fait 38 ans, cela fait 40 ans que je mène cette vie, pauvre, nu. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour avoir une vie meilleure? Quelle est la source de mon problème? Pourquoi Dieu m'en veut? C'est les interrogations qui pourraient venir à notre esprit. Et si vous parvenez à découvrir la cause de votre mal, que ce soit une addiction à un péché, que ce soit un esprit démoniaque qui vous lie, que ce soit une malédiction qui repose sur votre tête, ou que ce soit tout simplement et purement une rébellion et une désobéissance voulue à l'égard des volontés de Dieu, Dieu veut nous délivrer de cela. Lorsqu'on reconnaît que nous sommes pécheurs, que nous avons mal agi, lorsque l'on accepte que nos actions doivent être punies, ou alors lorsque nous refusons de continuer à marcher sur un chemin qui n'est pas droit, Dieu nous donnera la délivrance. Il ne nous rejettera pas. Lorsqu'on va voir un médecin, on lui parle de nos symptômes. J'ai mal ici, j'ai mal là. Et lui, par rapport à tout ce que nous allons lui dire, il va diagnostiquer quel est notre mal. Et il va donner le traitement en conséquence. Libre à nous de prendre ce traitement. Soit on le prend, soit on ne le prend pas. Si on le prend, on s'engage à suivre les restrictions du médecin. On obéit à ce qu'il va nous dire. Chaque jour, on va prendre nos médicaments régulièrement, afin d'obtenir la guérison. On a le droit aussi de ne pas les prendre, d'être têtu, de vouloir vaincre la maladie par ses propres forces, par sa propre pensée, la pensée positive que certaines religions enseignent. On ne prend pas la médication que le médecin a recommandée. Mais l'état de santé s'empire. Et on ne guérit pas. On reste malade. Combien de temps ? Une semaine, 12 semaines, 17 semaines, 38 semaines, 40 semaines, ou quarantaine. Il en est de même dans le domaine spirituel. Lorsqu'il y a des choses dans notre vie qui nous tombent par eux, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des Écritures, quelle est notre attitude? Est-ce que je vais obéir? Est-ce que je vais changer de voie? Est-ce que je vais écouter ce que me dit la parole de Dieu? Ou est-ce que je vais garder cet esprit rebelle qui fait que je suis malade, qui fait que je sois soumis à un péché, qui fait que je sois encore sous l'emprise de certains esprits qui me hantent? J'accepte ma condition ou je la refuse. Et si je l'accepte, je reconnais, je confesse, je délaisse et je change de voie, afin d'être agréable aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous demande d'ôter une pierre, d'ôter la pierre qui empêche qu'il sorte du tombeau. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va rester avec nos idoles? Est-ce qu'on va rester avec cette pierre qui empêche la vie de Christ de venir dans notre vie, qui empêche cette lumière de sortir des ténèbres? Ou est-ce que nous allons être participants afin de rouler cette pierre pour que l'esprit de vie, l'esprit de Jésus, vienne en nous? Vivre sous la maladie, sous une addiction, c'est comme si on marchait dans le brouillard. On avance en tâtonnant. On ne sait pas où on va. On voudrait vivre la liberté d'être un enfant de Dieu, on voudrait vivre la délivrance du salut, mais on est dans le brouillard. On aspire à des joies, on veut des bénédictions, Dieu nous les donne dans sa grâce. Mais on n'arrive pas à en jouir totalement. On est frustré. On n'arrive pas à s'épanouir comme la fleur devant le soleil. Il y a toujours quelque chose qui bloque. On se cogne sur une porte qui reste fermée. Et malheureusement, On se met sous une malédiction. Et Dieu veut nous en délivrer. Mais il ne pourra nous protéger que lorsque nous obéirons, que lorsque nous marcherons dans ses voies. Beaucoup diront, oui, mais il y a la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il est vrai. Mais nous devons être participants à ce que Dieu demande. Mon enfant, tu veux être béni? Suis mes commandements, pratique ma parole. Et viendra pour toi la bénédiction. Et comme l'a dit Gérard tout à l'heure, si tu ne pratiques pas la parole, la bénédiction ne viendra pas. Mais viendra la malédiction. Il y a deux sortes de malédictions dont Dieu ne peut pas nous protéger. Dieu est grand, il est vrai, il est majestueux, il est le roi des rois. Il y a deux choses dont il ne peut pas nous protéger. De nous-mêmes. Des malédictions que nous nous infligeons. Des paroles négatives dont nous nous nourrissons. Et il y a aussi la malédiction qui nous lie à d'autres personnes. Si j'ai fait dans ma vie des choses mauvaises et que je suis lié à ces personnes qui elles-mêmes demeurent mauvaises, je dois m'en écarter. Je dois les laisser aller et moi je dois tracer mon chemin et ma route. Loin de ces personnes qui sont maudites. Mais moi, vu que je veux la bénédiction, je vais m'écarter de ces gens-là. Donc nous devons être participants pour obtenir la bénédiction de Dieu. Les chrétiens qui vivent dans une discipline obéissante à Dieu et en harmonie avec les uns et les autres peuvent s'attendre à la protection de Dieu, d'où en découlera la bénédiction de Dieu. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'histoire de Joseph. Pendant 17 années, il était loin de sa famille. Pendant 17 années, il a vécu dans la prison, il a été élevé après, en voie de, à l'échelle du ministre. Donc on peut voir dans sa vie qu'il aurait pu en vouloir à ses frères, qu'il aurait pu les maudire, qu'il aurait pu se venger, mais il était loin d'eux, donc il n'a pas pu. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'histoire de Joseph. L'autre jour, j'étais en train de parler avec Evelyne, et elle avait bien aimé une fois une étude que j'avais faite sur Pierre. Et ce matin, nous allons reparler de Pierre. J'aime beaucoup ce personnage. L'histoire de Pierre, pour certains, c'est le reniement. Pour d'autres, comme une fois l'avait dit Florent, c'est l'homme qui marche sur les eaux. Quelle image avons-nous de Pierre ? Pendant 3 ans, il a partagé son temps avec Jésus. Jésus lui a fait part des vérités de Dieu. Pendant 3 ans, Pierre voit les miracles, assiste aux prodiges, mange une nourriture céleste, mange une nourriture qui rassasie sa faim. 3 ans que Pierre voit une source intarissable. 3 ans qu'il vit auprès de Jésus, qui ne cesse de lui partager les bontés de Dieu, qui ne cesse de l'exhorter à vivre une vie meilleure, qui lui révèle l'amour du Père et qui lui manifeste aussi cet amour. 3 ans qu'il entend Jésus, qui lui dit de devenir un homme meilleur, que Pierre doit se démarquer. Jésus veut faire découvrir à Pierre qui il est réellement. Dieu a fait découvrir à Moïse qui il était réellement pendant ses 40 ans. Dieu a fait découvrir à Joseph qui il était réellement dans sa prison. Pierre est un homme impulsif, intempestif, téméraire et peu courageux. Pierre est un homme qui s'imagine avoir beaucoup de qualités. Il est sa propre idole. Il s'aime lui-même. Il aime ce qu'il proclame. Il aime ce qu'il voudrait faire. Pierre a une très grande estime de lui-même. Il se croit capable de faire n'importe quoi. Alors qu'à la moindre occasion, il oublie toutes ses paroles. En quand il dit au Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Qu'a-t-il fait lorsque Jésus s'est fait arrêter? Il a renié son maître. Et le reniement de Pierre commence dans le jardin. Il est antérieur à l'arrestation de Jésus. Alors que son maître lui demande de veiller et de prier, Pierre s'endort. Trois fois, Jésus lui demandera de veiller et prier. Trois fois, Pierre s'endormira. Jésus aime Pierre. Il veut son bien. Il veut le meilleur pour lui. Et lorsque Pierre se connaîtra, lorsqu'il va passer au crible, plus rien ne pourra le faire regretter ce qu'il aura vécu ou ce qu'il voudra vivre. Pierre a dû être brisé afin d'être guéri, afin d'être délivré, reconstruit, non pas à sa propre image qu'il pouvait s'imaginer, mais à celle que Jésus voulait donner de lui. Tu seras une nouvelle créature. Pour devenir une nouvelle créature, il faut détruire celle qui était avant. On ne bâtit pas sur du sable, mais on bâtit sur un roc. Après s'être endormi trois fois, à son réveil, que fait Pierre? Il accomplit un acte contraire à tout l'enseignement de Jésus pendant trois ans. Il sort son épée du fourreau et il coupe l'oreille du soldat. Acte de violence, acte de colère, acte de folie. Tout ce que son maître lui avait dit pendant trois ans, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prie pour tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent. Que fait Pierre? Il s'imagine pouvoir arrêter l'arrestation de Jésus. Il s'imagine pouvoir sauver le Seigneur, qui lui-même, le Seigneur, pourrait faire appel à des anges. Mais Jésus connaît sa mission. Jésus sait par quoi il doit passer pour le salut de l'humanité. Et Pierre, téméraire, se dit, je vais te sauver, Seigneur. Je vais sortir mon épée du fourreau. Mais Jésus lui dira, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Fort de son courage, de sa force, de son impulsivité, de son orgueil, il pense sauver son maître. La réponse de Jésus lui montre sur quel chemin il s'est engagé. Celui de l'incrédulité, du doute. Le processus du reniement s'accentue. Jésus lui-même le dira à Pierre, « Ne penses-tu pas que je puisse demander à mon Père son intervention ?» À ce moment-là, Pierre ne croit plus en rien. Il ne croit plus aux paroles qu'il a entendues pendant trois ans. Il ne croit plus en son maître. Et sa chute va s'accentuer. Donc ce reniement a commencé dans le jardin. Et l'histoire continue. Pierre s'enfonce de plus en plus. Il creuse dans un trou qu'il a lui-même commencé à creuser. Pierre appelle la malédiction sur lui. Alors que Jésus est devant le Sanhédrin, devant Caïphe, devant les principaux sacrificateurs, Jésus doit le regarder et Pierre regarde Jésus. Il y a une femme qui est à côté de Pierre. Elle lui dit, mais n'étais-tu pas avec lui? Que fait Pierre? Il le nie. Il a passé trois ans aux côtés de Jésus. Une femme lui demande si elle connaît cet homme et lui dit, non, je ne connais pas cet homme. Imaginez-vous. Passer trois ans avec quelqu'un. Ça fait six ans que je suis revenu dans l'église. Si on me posait la question, tu vas à l'église, toi, tu connais telle personne. Imaginez ce que vous ressentiriez si je disais, non, je ne vais pas à l'église. Non, je ne connais pas ceux qui la fréquentent. Gérard Rézy, je connais pas. Imaginez ce qu'il pourrait ressentir. Et Pierre continue de nier. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, nous avons l'exemple où la femme dit à Pierre, « N'es-tu pas de ses disciples ?» Et Pierre le niera. Il ne prend pas conscience de ses paroles, son déni, ou alors qu'il nie qu'il n'est pas un disciple, fait qu'il s'exclut de la famille de Dieu. Il s'exclut des autres disciples. Je ne les connais pas. Je ne partage pas mon pain avec eux. Je ne partage pas l'enseignement du Christ avec eux. Je nie avoir vécu tout ça. Il rejette son Dieu. Il rejette son Messie et il rejette son Sauveur. Il est animé de colère, de violence et de haine. Il s'exclut du cercle intime du Seigneur Jésus. Il ne se considère lui-même même plus comme un disciple. Il annule et remplace sa confession de foi, le témoignage qu'il a vécu pendant 3 ans, par un reniement et un rejet. Il se retrouve avec les gardes autour d'un brasier. Dans le chapitre 20, une nouvelle fois, nous voyons une distinction entre le disciple qui est avec Pierre. Ce disciple va voir un garde et invite Pierre à venir avec lui. Que fait Pierre? Il n'ira pas avec l'autre disciple, il se tiendra à l'écart. Pierre, au fond du trou, creuse, creuse et creuse encore. Quel échec! Il s'exclut une nouvelle fois du cercle intime des disciples. Il ne trouve plus sa place. Son âme est partagée. Ensuite, après l'hécatombe de sa chute, après son reniement, son rejet, son abandon de son Sauveur, il attire des imprécations sur sa tête. Il fait des jurons par rapport au Christ. La malédiction est sur sa tête. Malédiction dont ne peut pas le protéger le Seigneur, parce que c'est lui-même qui l'attire sur sa tête. C'est lui-même, par son refus de confesser son appartenance au Christ, qu'il attire la malédiction. Mais nous allons voir que dans sa grâce et dans son amour pour son disciple, Jésus va l'en délivrer. Dans l'évangile de Jean, toujours, nous assistons au réveil de Pierre. Alors que dans le jardin, Jésus lui demandait de veiller, de prier, Pierre s'est endormi. Alors que Jésus, pendant 3 ans, lui disait qu'il fallait qu'il confesse son appartenance, qu'il trouve sa place au sein des disciples, au sein de la communauté et au sein du monde dans lequel il vivait, eh bien Pierre s'est endormi. Il a passé du temps auprès d'un brasier avec des gardes, à partager les quolibets, les injures, les imprécations à l'égard de son maître, bien chaudement au coin du feu. Jésus est crucifié. Jésus est mort. 3 jours après, que fait Pierre? Certainement rempli de remords et de regrets par rapport aux paroles et aux actes qu'il a manifestés. Que va-t-il faire? Des femmes viennent toquer à la porte. Le tombeau est vide. La pierre a été roulée. Jésus n'est plus mort dans son tombeau. Il est ressuscité. Que fait Pierre? Est-ce qu'il s'endort? Est-ce qu'il reste dans la maison? Pierre, d'un seul bond, sort de cette maison. Pierre et l'autre disciple que nous retrouvons sortent et courent ensemble auprès du brasier, ils n'étaient plus ensemble. Lorsque Jésus se faisait accuser, ils n'étaient plus ensemble, les disciples. Mais là, l'unité de la foi revient. Les deux disciples courent ensemble. Devant le tombeau qui est ouvert, que fait l'autre disciple? Il n'entre pas. Pierre, l'audacieux, Pierre, qui commence à devenir une nouvelle créature, rentre dans le tombeau. Le processus de réveil est en cours, alors que dans le jardin, il s'était endormi. Au verset 10 de l'évangile de Jean, où est Pierre? Il est compté à nouveau parmi les disciples. On ne fait plus la distinction de l'autre disciple et de Pierre. Mais maintenant, Pierre fait partie des disciples. Dans le chapitre 20, seul le mot disciple apparaît. Il n'y a plus cette distinction où Pierre est exclu, où Pierre est à côté. Ensuite, dans la suite de l'histoire, nous voyons que les disciples sont retournés à leurs activités du début. Ils étaient pêcheurs, ils sont retournés à leur travail, à leur métier. Jésus n'est plus, le Messie a disparu, je retourne à mon travail. Mais la pensée demeure. Parfois, lorsque nous manquons le but, il peut parfois arriver que le Seigneur, par différentes circonstances, nous replace dans les mêmes endroits, les mêmes situations, les mêmes points de départ que là où nous avions échoué. Fallait-il que Pierre renie Jésus pour devenir ce qu'il sera par la suite? Nous faut-il parfois connaître des échecs, des situations inconfortables, pour nous amener à la réflexion, nous repentir et changer de voie. Après le sommeil dans le jardin, après le brasier avec les gardes, après le reniement, la malédiction qu'il a amenée sur sa tête, Pierre connaîtra le réveil intérieur. Le brasier avec les disciples, sa promenade avec Jésus. Et Jésus, dans sa miséricorde, ouvre la voie pour que Pierre retrouve sa position et plus encore. Par trois fois, Pierre s'était endormi. Par trois fois, Pierre a renié le Christ. Par trois fois, Jésus le conduit dans la révocation de ses reniements précédents. Pour chaque fois qu'il avait fait une mauvaise confession, Jésus, maintenant, l'amène à faire une confession correcte. Et c'est sur cette base que Pierre va être rétabli et restauré. Jésus va amener Pierre à comprendre son échec, son découragement, l'hécatombe de sa chute. Il va l'amener à comprendre la puissance des paroles de malédiction qu'il avait amenées sur sa tête. Et que va faire Jésus? Il va le restaurer par trois paroles d'amour. Et il va le rendre participant à ses paroles. Trois étapes. Se repentir, renoncer et remplacer. Pierre deviendra celui que nous connaissons. Qu'a-t-il fait de son brisement, de sa chute? Des paroles qu'il a confessées, je ne connais pas cet homme. Il a pleuré, il a regretté, mais il était à mille lieues de savoir la malédiction qu'il avait appelée sur sa tête. Jésus, dans sa grâce, sauve et libère. La repentance que lui accorde le salut en Christ va amener Pierre non plus à vivre ce qu'il imagine, ce qu'il croit être, il ne va plus être amené à vivre sur ses propres forces, mais dans la réalité de sa faiblesse. Pierre sait qui il est, un être faible qui a besoin de son Sauveur et de son Seigneur. L'humilité a pris la place à l'orgueil. La confession pour Christ a pris la place au reniement. L'assurance et la fermeté ont pris la place à une vie instable. Par ses paroles de rejet, de mépris et de colère, Jésus le réhabilite par trois paroles d'amour. Jésus lui donne une autre identité, celui d'apôtre, mais aussi d'enseignant et de pasteur. Prends soin de mes brebis. Jésus lui délègue la tâche que lui-même remplissait. D'un mal profond qui a certainement détruit Pierre, dû au remords et au regret, et dû à la malédiction qu'il avait attirée sur sa tête, Jésus en tire du bien et reconstruit celui qui s'était détruit. Il amène Pierre à savoir où est sa place. Il lui donne des responsabilités. Et riche de cela, Pierre va manifester un réel intérêt pour les autres. Et il sera amené à faire des disciples. Lui-même, qui s'était exclu du cercle des disciples. Conscient de son nouvel ordre de mission, suivre Jésus devient une réalité. Un choix certain, un engagement ferme et non une illusion. Pierre prend conscience que toutes les années qu'il va lui rester à vivre, il s'engage dans la marche pour Christ. Non pas juste un dimanche matin, non pas juste un jeudi soir, ou non pas juste certaines journées de la semaine, mais continuellement, à 100%, après avoir été détruit, Pierre s'engage. Celui qui était téméraire, mais pas courageux, celui qui ne faisait pas ce qu'il disait, celui qui agissait tout contrairement à ce que lui disait son maître, maintenant il est engagé. Jésus, dans son amour infini, ne laisse pas les siens à la dérive. Il permet certaines choses qui peuvent être très difficiles à vivre. Il donne toujours le moyen d'en sortir. Et l'efficacité de son action aura des répercussions dans la vie de quiconque, mais aussi dans la vie de l'entourage. Au même titre que Jésus va bénir Pierre par ses trois paroles d'amour, Pierre sera une immense source de bénédiction pour ceux qui entendront ses confessions, qui verront la manifestation de l'œuvre de l'Esprit dans la vie de Pierre. Jésus ne bénit pas une seule personne. Il bénira la communauté. Il bénira les autres. Parce que Pierre s'est engagé dans ce chemin. Chemin fait de souffrance, nous le découvrons quand nous lisons les épîtres de Pierre. Ils sont synonymes de souffrance, de tristesse et d'épreuve. Mais riche de cela, Pierre devient une source de bénédiction pour tout son entourage. Jésus, bien que lorsqu'il se faisait injurier par les souverains sacrificateurs, par la cohorte, est-ce qu'il a renié Pierre ? Est-ce qu'il l'a laissé pour compte ? Non. Il a continué de l'aimer. Toujours plus. Et encore plus. Et nous ? Qu'avons-nous fait endurer ? Qu'avons-nous fait connaître à Jésus ? Ou à celui qui vit à nos côtés ? À celui ou à celle que nous côtoyons tous les jours, notre époux, notre femme, notre collègue de travail. Qu'avons-nous subi ou accepté de l'autre? Ne restons pas avec le souvenir de Pierre qui rejeta Jésus. Souvenons-nous de Pierre qui marcha sur les eaux. Au même titre que Pierre, qu'a fait Joseph? Trahi, vendu, laissé pour compte par ses frères. On pourrait dire, Jésus a pardonné à Pierre, il était fils du Dieu vivant, il n'était qu'un mouton. Qu'a fait Joseph? A-t-il renié ses frères quand il les a revus 17 années après? S'est-il vengé? A-t-il fait la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent? En a-t-il appelé à Dieu pour que Dieu fasse justice? Joseph, lui homme comme nous, qui a vécu la prison, qui a vécu le rejet, l'abandon, la solitude, loin de sa patrie, loin de sa famille, loin de sa communauté, isolé, seul, en proie aux troubles, en proie à d'autres dieux, en proie à des gens qu'il ne connaissait pas. Qu'a fait Joseph? A-t-il gardé amertume et rancune pour ses frères? Quand il les a vus, il pleura. Et il leur dit, « Mes frères, je suis Joseph, votre frère. » Nous aussi, nous pouvons faire comme Jésus, mais davantage, nous pouvons faire comme Joseph. L'étude et la méditation de la parole de Dieu nous amèneront, et uniquement la parole de Dieu nous amènera à savoir et à connaître qui nous sommes, non pas les autres, non pas des circonstances différentes, mais uniquement la vérité. Uniquement celui qui a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Il est nécessaire pour chacun d'entre nous d'ôter la pierre qui empêche la vie de sortir de notre vie, de marcher sur le chemin, de connaître et de manifester la vérité du Christ. L'ignorance spirituelle nous empêchera de jouir de ce que Dieu a préparé pour nous. Si je ne médite pas la parole de Dieu, si je ne prie pas dans le secret de ma chambre, mon Père éternel, si je ne recherche pas, comme nous l'avons chanté, son royaume et sa justice, nous resterons pauvres, aveugles et nus, et misérables. Que peut-on faire pour porter remède à la négligence de toute une vie? De 12 ans, d'errance. De 17 ans, de maladie. De 38 ans, d'amertume. De 40 ans, de rancune. Comment les connaissances bibliques peuvent-elles transformer la vie d'une personne? Comment entrer dans la bénédiction? Comment se soumettre à l'autorité des Écritures? La méditer, certes, mais aussi se repentir. Je demande pardon pour ces paroles mauvaises. Je demande pardon pour ces actes que j'ai pratiqués. Et je recommencerai une nouvelle vie. Je reviendrai au point de départ où j'ai échoué, afin de recommencer, parce que je deviens une nouvelle créature. La Bible enseigne la responsabilité et l'amour à son prochain. Entendre, comprendre et agir comme l'enseigne le Seigneur agit sur notre intelligence, nos sentiments et notre volonté. Le renouveau spirituel débute avec la connaissance de la parole de Dieu. Désir connaître la parole de Dieu. Désir et faire comme l'a enseigné Jésus. La parole de Dieu deviendra notre autorité et influencera nos habitudes dans le travail et dans notre comportement social avec les autres. Comment être béni? En mettant en pratique ce qu'enseigne Jésus. Nous ne pouvons faire l'expérience du bien-être spirituel, mental et affectif qu'en suivant Jésus. Le manque de confiance, la désobéissance au Seigneur, ne pas tirer leçon du passé, péché par action volontaire, désobéir n'amènera jamais la paix de l'esprit, de l'âme et du corps. Les bénédictions produisent des effets positifs et bénéfiques, tandis que les malédictions produisent des effets négatifs et nocifs, aussi bien sur notre propre vie que sur la vie de celui qui est à côté de nous. Allons-nous demander la bénédiction à Jésus, tout comme cet homme qui fut malade pendant 38 ans, tout comme cette femme qui toucha le vêtement de Jésus et fut guérie en un instant, après 12 ans. Allons-nous demander la bénédiction, tout comme Joseph a donné la bénédiction à ses frères, 17 années après, ou comme Moïse, qui fut celui qui délivra son peuple par l'intervention de Dieu, un meneur d'hommes, un meneur de peuple, était-il resté sur le meurtre qu'il avait commis, ou avait-il appris de cet acte infâme, punissable selon la loi de Dieu? Devenons une nouvelle créature, afin d'être source de bénédiction, pour nous-mêmes d'une part, notre corps, notre âme et notre esprit, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Serons-nous le pierre du jardin ou le pierre de la plage? Serons-nous celui qui a renié ou celui qui marche sur les eaux? Sommes-nous ceux qui taisent le nom de Christ ou ceux qui le confessent? Quelle est notre responsabilité? Après avoir connu des années mauvaises, chacun d'entre nous, que voulons-nous des années qui nous restent à vivre? Continuer dans la même marche ou alors changer de monde? J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants, si vous n'aimez pas dans le monde dans lequel vous vivez, avec vos copains qui se moquent de vous, avec tout ce que vous voyez à la télé, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est d'en changer. Vous avez le droit de changer de monde. Vous avez le droit de changer ce qui ne vous plaît pas. Soyez participants, comme je le disais en introduction, de votre vie. Soyez source de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Et vous serez bénis en retour. Il est écrit dans le livre du Deutéronome, choisis la vie afin d'être béni. Frères et sœurs, voyageurs, amis, choisissez la vie afin d'être béni. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Tu révèles des vérités. Tu participes à notre vie. Tu nous donnes les moyens d'être agréable à tes yeux. Tu transformes notre cœur par l'action de ton esprit. Seigneur, que nous soyons chacun d'entre nous des pierres vivantes de ton édifice. Que nous soyons, Seigneur, participants de l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, que nous soyons cette sentinelle. Seigneur, à la question que tu poses, trouverai-je quelqu'un pour me révéler, parler de moi? Que pouvons-nous te répondre, Seigneur, si ce n'est nous voici? Que ton saint nom soit béni, que ta personne soit exaltée dans notre vie, et que ton esprit manifeste ton amour en nous, afin que nous puissions la manifester aux autres. Oui, Seigneur, apprends-nous à obéir au premier commandement et au second commandement qui lui ressemble. Apprends-nous à t'aimer et à nous aimer les uns les autres. Béni sois-tu, Seigneur.